donc les familles heureuses se ressemblent toutes.
J'avais 20 ans.
Les familles malheureuses.
C'est une vérité universellement reconnue.
Les bonnes feuilles. Un moment de lecture coordonné par Sandrine Trainer avec Anne-Vanessa Prévost. Michel Bernard lit les premières pages des Forêts de Ravel aux éditions de la Table Ronde.
Au milieu du mois de mars 1916, dans les rues de Bar-le-Duc, coiffé du casque des artilleurs dont la plaque frontale figure deux fûts de canons entrecroisés, et vêtu d'une pelisse qui le faisait paraître un ours, un petit ours d'1m61, Maurice Ravel tenait et tournait à force de bras un grand volant d'un poids lourd de l'armée française. C'était un camion Ariès, un de ces engins que la France transformait en un immense complexe de production d'obus, de canons, de fusils, d'armes automatiques et autres machines de guerre, sortait alors en grande série des centaines d'usines organisées en hâte pour nourrir la guerre durant la guerre elle-même. L'engagé volontaire Ravel était arrivé à la fin de l'hiver dans la petite ville de l'Est pleine d'unités de toutes armes et de toutes provenances, de chevaux et de mulets, d'automobiles et de fourgons. L'appareil de la guerre était répandu dans tous les quartiers de la modeste préfecture. La proximité du front avait progressivement augmenté l'étendue de son agglomération de baraquements, de parcs de matériel. Dans ces dépôts et ces remous d'hommes en bleu se trouvaient des combattants qui avaient vu tous les secteurs du front et des embusqués qui n'en connaissaient que la rumeur. Les uns, résignés, attendaient d'y retourner, les autres travaillaient à les y renvoyer. Maurice Ravel était parti à la guerre au matin du 10 mars. Il venait d'avoir 41 ans. Depuis la banlieue parisienne, après deux journées et une nuit d'un voyage éprouvant, il avait débarqué un soir sur le quai de la gare de Bar-le-Duc, dans la Meuse, sa première affectation dans la zone du front. Sous la vaste halle de verre et d'acier encore intacte de la ligne Paris-Nancy, montaient les bruits des troupes en transit, éclats de voix et raclements de fer, les heurts des mécanismes de fonte et d'acier des convois à la manœuvre et les sifflements des chaudières des locomotives. Dans ce vélum sonore d'appels, d'ordres, de grognements, de jurons, où fusaient des exclamations joyeuses et rigolos, l'absence de voix féminine était soulignée par les frottements des souliers cloutés sur la pierre et le pavé. Rien d'autre. Ou alors, en écoutant bien, par-dessus le désordre des sons de la guerre militaire, dans le grand silence de l'espace, au fond de l'air, là-bas peut-être, au plus lointain, ce grondement subtil, comme une sensation qui hésite. La bataille de Verdun avait commencé 19 jours auparavant, le 21 février, à 50 km au nord. C'était le front, pour la première fois, ayant son point le plus brûlant. Il l'approchait enfin. La grande bataille avait aspiré de Paris vers la préfecture de la Meuse le conducteur Ravel. Ravel n'aurait pas dû se trouver là, en tout cas pas à ce moment-là.
Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Isabelle Huel.